Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et 9h18, la suite des grands débats, toujours avec Arlette Chabot, Philippe Bilger et notre invité ce matin, Thomas Porte, porte-parole de Sandrine Rousseau, candidate à la primaire Europe Écologie Les Verts et qualifiée pour le second tour. Et vos appels, comme tous les matins, 0826-300-300. D'abord, dites-nous si vous avez regardé les débats hier sur France Télévisions et sur de Zemmour
BFM TV.
Oui, exactement.
Bon, même si sur BFM TV, il y avait un autre débat. Alors, on peut le dire maintenant parce qu'il est passé. C'était ce matin entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. Alors, on a reçu avant-hier Mathieu Orphelin qui défend, lui, Yannick Jadot. Il nous a dit pourquoi. Il est opposé à la radicalité de Sandrine Rousseau. Alors, Sandrine Rousseau, elle est toujours cash, hein, Thomas Porte. Ce matin, elle dit par exemple, si jamais moi j'étais élu, eh bien, chaque année, il y aurait une augmentation de 5 à 10 centimes sur le prix de l'essence. Quoi. Vous croyez qu'avec cela, elle peut gagner des voix?
Oui, mais elle ne dit pas simplement ça.
Non.
Elle dit que cette augmentation-là, elle est nécessaire puisque le carbone et notamment le pétrole nous mettent en danger. C'est ce qui aujourd'hui crée des émissions de gaz à effet de serre et menace la population. On a quand même en France 3 enfants sur 4 qui respirent un air pollué. C'est l'OMS qui le dit. Donc, il faut prendre des mesures concrètes. Elle dit aussi qu'elle va accompagner avec un revenu d'existence, qu'elle va augmenter le SMIC, qu'elle va renforcer les services publics, qu'elle parle de démobilité. Donc tout ça, c'est un véritable projet de société. On ne dit pas on augmente le litre d'essence et puis on en reste là et les gens vont payer plus cher. C'est que derrière, il y aura des éléments qui vont les amener à moins se déplacer, à se déplacer avec des transports publics qui vont être gratuits. Il faut rouvrir les gares dans les petits territoires, il faut remettre des lignes de train là où ça a été abandonné, il faut permettre aux gens de faire du télétravail parce que c'est aussi aujourd'hui une solution. Et on sait qu'en plus, en réduisant les déplacements, ça réduit l'empreinte carbone. Donc tout ça est bénéfique et c'est pas simplement une taxe pour taxer, c'est un véritable projet de société.
Oui,
c'est
alors, ça que démobilité, revenez peut-être sur ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs là, qui vous entendent et qui se disent mais c'est quoi précisément la démobilité? Philippe Bilger voulait poser cette question, mais il en posera une autre tout à l'heure comme Arlette Chabot. Hein.
Voilà.
Aujourd'hui, on a des déplacements qui sont contraints. On a des gens, par exemple, en région parisienne qui traversent tous les jours l'Île-de-France pour se déplacer d'un point A à un point B parce que leur emploi est plus loin. Mmh. On a vu avec la crise que la question du télétravail qu'il faut encadrer parce qu'il faut aussi des accords d'entreprise derrière pour pas que ce soit tout et n'importe quoi parce que les salariés, il faut qu'ils soient protégés. Mais on peut, par exemple, avoir moins de déplacements. C'est ça, la démobilité. C'est-à-dire organiser la vie et le travail près de son domicile pour permettre que les déplacements qui sont contraints et subis par de nombreux salariés ne soient plus obligatoires. Quand vous allez.
Mais pas en permanence. Quoi,
non, pas en permanence.
Sur 5.
Non, mais c'est aussi pour ça.
Vous savez que
c'est aussi pour ça qu'on a.
Un salarié apprend son travail à 70-80% par sa présence en fait, au travail. Mais ça, ce sont les spécialistes qui le disent.
Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va supprimer d'ailleurs les salariés dans les entreprises. Puisque, en plus,
c'est le risque.
Mais il y a aussi beaucoup de salariés qui souhaitent revenir sur leur lieu de travail parce qu'il y a une question de sociabilité, de plaisir de travailler avec ses collègues. Mais on peut avoir une part qui alterne 2 jours de télétravail par exemple par semaine et 3 jours sur site. Et tout ça s'articule avec des services publics, avec des transports du quotidien, pour permettre aux gens, évidemment, on ne va pas supprimer la voiture. Il y a certains territoires, aujourd'hui, vous n'avez pas de voiture, vous êtes un peu mort, entre guillemets, vous ne pouvez pas aller bosser, vous ne pouvez pas aller vous soigner. C'est pas ça le sujet. Il faut aussi revoir la question de la voiture. Quelle voiture? Quel modèle de voiture? Donc, tout ça, c'est un corpus idéologique, c'est un véritable projet. Donc, c'est pas Sandrine Rousseau, il ne faut pas la résumer à la taxe sur l'essence. Ça s'articule avec différentes mesures qui vont accompagner les gens. Parce que ce qu'elle dit aussi, c'est que ce projet-là, on ne le fait pas contre les gens. Il faut le faire avec les gens. Et si on veut que le projet soit partagé, il faut qu'il soit porté par l'essentiel de la population pour avancer concrètement. Et il y a plusieurs études qui disent que les gens sont prêts à avoir des mesures radicales et concrètes si ça a un impact sur leur vie quotidienne, parce qu'ils sont conscients du danger du réchauffement climatique.
Et ça, Sandrine Rousseau le porte davantage, selon vous, donc Yannick Jadot, quoi.
En tout cas, elle l'a dit de façon très claire ce matin. Et effectivement, il y a deux modèles d'écologie politique entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. D'ailleurs, Mathieu Orphelin soutient Yannick Jadot et on connaît le parcours de Mathieu Orphelin, qui était à l'époque un député d'Emmanuel Macron. Ouais. Donc, il n'y a pas trop de surprise là-dessus. Il y a quelque part l'écologie d'accompagnement ou de faire avec l'économie de marché.
Ouais.
Et Sandrine Rousseau, elle dit que l'écologie politique, qui va aussi mettre fin aux inégalités sociales, elle n'est pas compatible avec le système libéral tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc c'est une écologie de rupture. Mais rupture, c'est pas un gros mot tel qu'il est galvaudé aujourd'hui. C'est prendre des décisions concrètes politiques qui permettent de préserver l'intérêt général face aux intérêts individuels.
Oui. Question de Philippe Bilger avant Arlette Chabot et Cécile.
Oui, Thomas Porte, j'ai beaucoup apprécié le débat entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, mais je voulais vous demander, à partir du moment où Yannick Jadot évoquait l'exigence de responsabilité, la culture de gouvernement, et que Sandrine Rousseau ne pouvait pas les dénier, puisqu'elle se présente elle-même au suffrage des écologistes et peut-être demain de la présidentielle, est-ce qu'elle n'a pas été obligée de surjouer, au fond, des différences avec Yannick Jadot qui n'existaient pas forcément ?
Non, je crois pas qu'elle a surjoué. Il y a des points communs entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, puisqu'il y a aussi une plateforme à la base d'Europe Écologie Les Verts, un certain nombre d'idées qui sont partagées par les deux candidats. Mais quand on parle d'écologie, de gouvernement ou de raison de gouvernement, de rationalité, il y a deux, là aussi, manières de faire. C'est-à-dire qu'il y a celle qui consiste à dire on va concerter, on va décider avec les gens, on va prendre du temps et on va avancer petit à petit. Et il y a celle de Sandrine Rousseau qui dit, et qui l'assume, qui dit ça va être parfois difficile pour certaines personnes, il faudra les accompagner, mais aujourd'hui le temps des demi-mesures et la politique des petits pas, elle est plus acceptable. Vous avez bien vu tous les rapports qui sortent, et le énième rapport du GIEC, tout ce qu'on a connu cet été, on a quand même une inquiétude sur ce qui va se passer dans les années à venir, et si on continue aujourd'hui à faire ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire faire des annonces qui sont pas suivies d'actes, et on l'a vu avec la Convention citoyenne, on va aller vers la catastrophe, et c'est encore une fois les plus précaires qui vont subir en premier la crise du réchauffement climatique.
Oui. Arlette Chabot, avant Cécile.
Ce qui est fondamental, c'est effectivement Yannick Jadot d'y faire avec. La concertation, c'est important. Quand il n'y a pas de concertation, c'est un projet, c'est la démocratie. Donc on se plaint que ce gouvernement ne concerte pas assez, n'écoute pas assez. Mais alors Sandrine Rousseau, c'est pas faire avec. Quand je vous entends, c'est faire malgré, en dépit d'eux, c'est-à-dire les agriculteurs, les entreprises et même les Français qui sont assez sceptiques pour la plupart, eh ben on s'en fout, on impose les mesures et ça passe ou ça casse. C'est ça l'écologie de rupture. Donc on a l'impression qu'effectivement la radicalité, c'est faire contre tout le monde. Voilà, on assume.
Non, je crois que c'est pas ça, et vous avez raison de souligner que la concertation est importante, mais on sort quand même d'un quinquennat où on a vu ce que c'était la concertation,
c'est-à-dire
c'était une accumulation de concertations qui n'a donné aucune décision.
Il n'y a pas de concertation, vous avez tous dénoncé qu'il n'y a pas de concertation. Ça, là, on a l'impression quand même, la radicalité de Sandrine Rousseau, c'est qu'on vous impose la transition écologique parce qu'elle est nécessaire. Je suis d'accord avec vous, mais alors franchement, c'est deux forces. Donc, et ça s'applique à tout le monde, encore une fois, les entreprises, les agriculteurs et même les Français qui prennent leur voiture. Tiens, les gilets jaunes, il y en aura 2 millions dans la rue grâce à vous.
Non, parce qu'effectivement, il y aura, on l'a dit, des acteurs ou des actrices de ce pays qui seront pas satisfaits des mesures qu'on va prendre, mais c'est notre objectif, c'est de préserver l'intérêt général. Mmh. Et évidemment, quand on aura les lobbies qui vont venir taper à la porte de l'Élysée pour dire non, on veut pas sortir des pesticides, eh bien on dira si, on sort. Parce que c'est une décision aujourd'hui qui est importante à prendre parce qu'elle met des millions de gens en danger. Alors effectivement, c'est pas parce qu'on dit qu'on va imposer cette décision qu'on va laisser les gens sur le bord de la route. Il faudra accompagner par exemple les agriculteurs dans la transition écologique, comment les former sur le bio, comment leur donner des moyens, sortir aujourd'hui d'une politique agricole commune qui va sur des exploitations de taille XXL et qui endette les agriculteurs à tel point qu'ils se suicident un tous les deux jours. Donc c'est ça aujourd'hui. Il faut plus que les lobbies fassent la pluie et le beau temps, et on a vu qu'avec Emmanuel Macron, ce sont eux qui décident aujourd'hui. Et je termine là-dessus. On a eu quand même un exemple symptomatique cet été où en 24 heures, Emmanuel Macron a annulé le décret sur le contrôle technique des deux roues parce qu'il n'avait pas envie de voir de manifestation, alors qu'on sait que qu'il y a quand même une question de pollution. Et ça, ce sera terminé si Sandrine Rousseau. C'est pas faire contre les gens, c'est qu'il y a des décisions courageuses qui font pas toujours plaisir, mais qui sont nécessaires si on veut livrer une planète vivable à nos enfants demain.
Dernière question, Thomas Porte avec Cécile. Cécile,
oui, moi je voulais vous demander ce que voulait dire dans la bouche de Sandrine Rousseau un homme déconstruit.
Je vois que la phrase a fait beaucoup réagir, puisque après j'ai vu l'avalanche de tweets et tout, etc. Mais Sandrine Rousseau, déjà, un, elle ciblait pas Yannick Jadot, comme je l'ai entendu. Et de deux, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a un parcours aujourd'hui à faire de lecture, d'assimilation des inégalités de ce que vivent les femmes, qu'il faut intérioriser, qu'il faut assimiler, qu'il faut ingurgiter, si je peux utiliser ce terme. Qui participe aujourd'hui à la déconstruction d'un certain modèle et d'une certaine image qu'ont des personnes de la société.
Ça veut dire que son mari était tout ce que vous dites et qu'aujourd'hui, assez côté, il est devenu déconstruit.
Ah, ça, je parlerai pas à la
non,
place.
Non, mais c'est une vraie question.
Je parlerai pas à la place de Sandrine Rousseau. Peut-être que son mari était déjà déconstruit avant de la rencontrer. C'est pas ça le sujet. Mais c'est un parcours personnel qui fait qu'on s'enrichit de lectures, de documents, d'analyses et qu'on sent ce qui se passe dans la société, qu'on a des perceptions. Et aujourd'hui, on n'est pas tous au même niveau là-dessus. Faut le reconnaître. Et il y a des gens qui ont encore un parcours de déconstruction à faire. Et
c'est pas
cibler les gens de façon très méchante. C'est expliquer qu'il y a aujourd'hui une évolution différente chez certaines personnes.
Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est pas toujours opposer les femmes aux hommes et les hommes aux femmes?
Non, parce qu'il y a aussi des femmes qui n'ont pas fait certainement leur parcours de déconstruction, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et Sandrine Rousseau, elle n'oppose pas les femmes et les hommes là-dessus. Elle dit qu'il y a des personnes qui n'ont pas fait aujourd'hui leur parcours de déconstruction.
Merci Thomas Porte, porte-parole donc de Sandrine Rousseau. Les résultats, on les aura donc
mardi à 17h.
C'est assez serré, vous avez des...
Non, mais on n'a aucun sondage et aucun élément. Et On espère que Sandrine Rousseau sera en tête mardi soir quand on va ouvrir l'urne.
Bon, et puis certains auditeurs qui vous écoutent qui disent bah, « moi j'espère que ce sera Yannick Jadot ».
Mais
bon,
évidemment. C'est la démocratie.
Allez, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Merci. Dans un instant, nous allons poursuivre. Tout à l'heure, on va parler en fait des arnaques de l'été, enfin des arnaques des vacances. Hein. Vous imaginez, vous réservez sur Internet, vous arrivez, normalement vous avez une belle maison qui vous attend, vous êtes à 15 et il n'y a pas de maison.
Ou alors elle n'est pas allouée.
Et c'est du vécu, c'est ce qui s'est passé et donc nous verrons comment réagir dans ces conditions parce qu'il y en a toujours qui sont en train d'essayer d'engager en fait des poursuites. Ce sera dans un quart d'heure, vous pouvez témoigner. Et avant cela, dans un instant, Cécile.
Et juste avant ça, notre invité, c'est Mehdi Emmanuel Djadi, qui est acteur et comédien, qui sera avec nous. Un spectacle sur le coming out.
Oui, coming out, oui.
A tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h31, un petit peu de bonheur, un petit peu de douceur dans ce monde de brut avec Mehdi Emmanuel Djadi. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes acteur et comédien. On va écouter un petit peu de votre spectacle qui est en ce moment, ça s'appelle Coming Out. Alors je ne sais pas si c'est celui-ci, en tout cas ça nous a fait bien rire, écoutez.
Alors j'ai pas encore les chaussures bateau avec le polo Ralph Lauren avec le col relevé. Je pourrais. En revanche, ce que je n'aurais jamais, c'est les pommettes roses. Les pommettes roses et la mèche de Cato, hein. Bon alors là, il n'y a pas trop de mèches de Cato ce soir, mais à Paris, c'est vrai que dans les théâtres parisiens, j'ai toujours un baudouin. Hein, un baudouin qui fait une école d'ingénieur ou de commerce.
C'est très bon. Qu'on embrasse, bien sûr, alors, les baudouins.
Vous racontez dans votre spectacle, hein, Coming Out, c'est votre parcours quoi, qui est un peu hors norme, si je puis dire. Vous allez nous raconter. Hein, vous êtes passé par un peu toutes les phases, si je puis dire.
C'est l'histoire d'une grande odyssée spirituelle qui démarre à Saint-Étienne, dans un quartier populaire, dans une famille musulmane pratiquante. J'étais à l'école coranique et puis cette odyssée qui se déroule jusqu'à la découverte du christianisme par le protestantisme et puis des expériences un peu mystiques, un peu de raison et puis j'arrive jusqu'à la foi catholique.
Ouais.
Tout en devenant comédien, donc je raconte ce que c'est que d'être aussi un chrétien décomplexé dans un milieu artistique qui est parfois très anticlérical.
Oui, alors ça c'est vrai sur un plan spirituel, mais sur votre parcours de vie aussi, issu en fait de Saint-Étienne, Alain Oukili qui a préparé, donc qui a vu votre spectacle, me dit aussi, il est passé par toutes les phases, c'est-à-dire la délinquance également, c'est ça ?
Oui, c'est en ça où le spectacle c'est aussi un spectacle sur l'antidéterminisme. C'est vrai que venant de banlieue, d'un quartier populaire, ayant flirté avec la petite et la grande délinquance.
La grande délinquance, c'est-à-dire dans quoi ? Dans le trafic de drogue dans les...
Non, on était dans les escroqueries de banque, donc j'usurpais l'identité de personne pour ouvrir des comptes, ce qui m'a quelque part amené après au théâtre, quand j'ai décidé d'en faire quelque chose d'un peu plus honnête, on va dire. Et c'est aussi un message d'espoir à toutes ces jeunesses, en leur disant, vous trouverez des gens qui vous tendront la main, ça existe, et puis vous pouvez vous en sortir par l'escalier social, l'ascenseur social, j'aime pas trop ça.
Non mais c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est que vous dites, on m'a tendu la main d'un autre côté, on peut réussir, mais dans un premier temps, dans les quartiers en fait à Saint-Étienne, on vous a tendu la main en revanche pour aller dans la délinquance quoi.
Oui,
c'est facile, c'est ce qui se passe quoi.
C'est des mains tendues parce que certains jeunes sont désœuvrés et il faut aussi un peu d'audace. Il faut aussi un peu d'audace pour pas aller vers la facilité. Ouais. Et parfois la facilité, c'est effectivement de tomber sur les mauvaises personnes, l'appât du gain, et puis on se met aussi parfois dans une posture un peu de victimisation, alors qu'en fait c'est possible si on veut vraiment. On est quand même dans un pays qui nous offre la possibilité de faire plein de choses et même pour des gens, j'apprenais dernièrement qu'à l'université, ce qui s'appelle la capacité en droit, vous n'avez même pas besoin d'avoir le bac, vous pouvez intégrer l'université, donc il y a des possibilités, après il faut un peu d'audace et puis beaucoup de confiance.
Et qu'est-ce qu'ils disent vos anciens copains, voyous plutôt?
Ils sont respectueux du parcours, en tout cas, même si parfois ils comprennent pas trop le chemin spirituel, mais en tout cas ils sont respectueux du parcours. Alors, modestement, hein, même si moi je respecte aussi là où ils en sont dans leur vie, mais certains comprennent, d'autres non, mais en même temps dans sa vie faut avancer.
Oui, c'est ça. Comment vous percevez le débat actuel en France politique avant la présidentielle ? Par exemple, il y avait Mélenchon, Zemmour. Je sais pas si vous avez regardé hier soir.
J'étais sur scène.
Vous étiez sur scène.
je me ferai un peu le best-of, parce que je pense qu'il doit y avoir des belles punchlines entre, entre les deux oiseaux. Là.
Non, mais comment vous percevez, en fait, les choses? Vous avez l'impression, quand certains disent le pays, si ça continue comme ça, est au bord de la guerre civile.
Ben, je suis pas totalement d'accord, parce que moi, à la sortie du spectacle, j'ai fait le Festival d'Avignon, il se trouve qu'il y a beaucoup de musulmans, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens athées qui sont venus voir le spectacle. Et en fait, la France du quotidien ne ressemble pas au plateau télé, ne ressemble pas à ces débats où on veut opposer. Mmh. Est-ce que vous êtes pour ou contre le voile? Est-ce que vous êtes pour ou contre le mariage pour tous? En fait, il y a beaucoup de croyants et de non-croyants qui vivent dans ce pays, qui veulent vivre plutôt en paix.
Et les uns avec les autres.
Et la réalité, c'est ça. Et parfois, les médias et les politiques veulent un peu opposer. Pour voilà, il y a des échéances qui arrivent, donc forcément, on veut opposer les uns les autres.
Alors, mais c'est vrai que sur le voile, c'est une réalité. C'est-à-dire que le voile est de plus en plus populaire et porté, en fait.
Il peut être aussi porté par des gens qui veulent juste vivre en paix dans ce pays. Donc,
Et le problème, c'est qu'il y a l'amalgame après avec plus les fondamentalistes, quoi. Et puis et des tenues qui sont beaucoup plus radicales.
Et c'est ce que dit aussi un peu le spectacle, parce que quand on parle de radicalisme, moi je tape autant sur le fondamentalisme chrétien qui, par exemple, moi, tout converti que je suis, veulent quand même que je retourne vivre en Algérie pour réévangéliser l'Algérie, mais aussi sur des fondamentalistes d'extrême gauche, on va dire, qui sont progressistes mais avec une certaine limite. Ils sont tolérants, mais que si ça va dans leur sens. Donc, moi j'essaye juste de nous mettre face à nos paradoxes et dire en fait c'est beaucoup plus nuancé que. Et quand on veut imposer une idéologie, là ça devient dangereux, qu'elle soit.
On dit que sur scène, finalement, c'est le seul lieu dans lequel on peut finalement tout dire, avoir sans être taclé ou sans être. La télévision c'est difficile, la radio c'est difficile, et là le face-à-face avec le public permet justement d'avoir une liberté de parole sur le rire, à part le rire, qui est plus intéressante qu'ailleurs.
Ouais, c'est vrai que c'est encore un des derniers espaces de liberté. C'est aussi pour ça qu'on a choisi la scène avec mon co-auteur et metteur en scène Thibaut Évrard, parce qu'on s'est dit que la scène était encore un de ces espaces de liberté, non seulement sur scène, mais aussi le public vient et lui est très différent, très varié, peuvent se retrouver. Et il y a peu d'endroits où des gens aussi différents peuvent se retrouver et échanger.
Et votre public, alors, quel est-il?
Il a un peu l'image du spectacle. Et vraiment, il y a beaucoup de chrétiens, il y a des gens curieux. Par le titre, c'est vrai qu'il y a eu au début beaucoup d'homosexuels.
Coming out.
Mais c'était l'affirmation d'une identité spirituelle.
C'est le deuxième spectacle, peut-être, quoi, non?
Non. C'est le même. Mais c'est vrai que je leur disais, quand j'ai beaucoup d'amis homosexuels qui viennent le voir, et je leur disais, mais je vous rejoins aussi dans certaines problématiques. Quand j'ai annoncé que j'étais chrétien, il y a eu de l'incompréhension, parfois des menaces, parfois de la colère. Donc,
encore aujourd'hui ou pas, non?
Les chrétiens sur les réseaux sociaux, l'islam, un petit peu, et puis des gens qui ne comprennent pas dans mon entourage, dans le milieu artistique aussi, parce qu'il y a aussi ce fameux anticléricalisme. Et après, quand on est dans la rencontre, ça va mieux.
Mais votre famille.
On fait ce qu'on peut. Ça a été très douloureux pour eux quand j'en ai fait un spectacle. Et c'est vrai que je leur ai fait beaucoup de peine et je m'évertue à chaque fois à leur demander pardon, parce que ce sont des gens plutôt discrets, mes parents, et de l'avoir affiché publiquement, ça les a un peu.
Juste une question, parce que vous avez une polémique sur les prénoms en ce moment. Alors, c'est assez drôle. Mehdi Emmanuel, est-ce que c'est votre vrai prénom?
Alors, Mehdi, c'est mon prénom de naissance, état civil. Emmanuel, je l'ai choisi quand je suis rentré dans l'église catholique. Je ne l'ai pas changé à mon état civil, puisque Mehdi fait partie de cet héritage que j'ai reçu.
Bien sûr.
L'assimilation, ce n'est pas juste dans le prénom. Moi, je suis français par adhésion. Je suis français par le sang versé de mon grand-père qui a fait 39-45. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ils ciblent une communauté en disant qu'il faudrait qu'ils changent leur prénom, mais aujourd'hui, les prénoms chrétiens, moi, quand je vois ces fameux, je caricature, mais bobos de gauche, les enfants ont plus des noms avec des syllabes que vraiment des prénoms chrétiens. On a plus des loup, plou, mi, fa, sol, la, si.
Oui, c'est vrai.
Donc ça veut rien dire, le prénom.
Ça veut rien dire, mais sauf que ça a de l'importance, puisque vous êtes pris un deuxième prénom. Quoi.
Oui, parce que l'église me le proposait, et c'est vrai que Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Mmh. Et au départ, je vais prendre Michel, parce que je suis né le jour de la Saint-Michel, mais ça faisait Mehdi Michel. Et
Ça aurait été drôle.
Donc j'ai pris Emmanuel, mais voilà, en fait, l'assimilation, c'est pas que ça. Et quand bien même, moi j'ai vu des gens où j'ai adopté la religion, on va dire, historique de ce pays, je vis en France, je suis français.
Mais c'est un choix.
Pour certains, c'est un choix, mais pour certains, je serais jamais suffisamment français. Les mêmes défenseurs de cette assimilation,
si je fais un pas trop, je singe.
Si je reste là, c'est pourquoi il a pas changé son prénom. Enfin, donc voilà, c'est
Mehdi Emmanuel Djadi. Et donc le spectacle, alors, c'est où? Et jusque quand hein ?
C'est tous les jeudis et vendredis à 19h45 au théâtre Galabru, de feu Michel Galabru, oui. C'est son théâtre. Voilà, c'est une heure où on parle de sujets profonds.
C'est à Paris.
C'est à Paris.
C'est à Montmartre.
Avec beaucoup d'humeur, on sent que les gens ont besoin justement de oui. rire et de sens, surtout.
Et puis alors, c'est à Paris, mais ce sera aussi bientôt partout en France. Hein,
oui. On espère, on prépare
évidemment. Évidemment, on va vous accompagner, on va vous suivre. Merci en tout cas d'être passé ce matin au micro de Sud Radio.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Dans un instant, La France à vos côtés. On va revenir sur un sujet moins drôle, c'est toutes les arnaques durant l'été de tous ces gens qui ont cru que quand ils arrivaient sur leur lieu de vacances, une belle villa les attendait. Bah, pas du tout.
Il n'y avait rien du tout.
Il n'y avait rien du tout.
Tout simplement.
Où il y avait, mais qui était pas loué avec des
gens. Méfiez-vous quand même des réservations sur Internet. Quoi.
On plaisante, mais en tout cas, c'est un gros problème puisque les augmentations, c'est en hausse de 17%. Les arnaques sur Internet, on vous en parle dans quelques instants. On va vous donner d'abord un témoignage et puis aussi des petits conseils pour éviter de vous faire arnaquer. À tout de suite.